Bonjour, aujourd'hui Parole aux auditeurs s'intéresse au site. Nous savons que les impôts constituent la principale source des moyens de l'État. La RDC, dans le cadre de sa réforme fiscale, applique depuis le 1er janvier dernier la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La TVA est un impôt indirect sur la consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises, certaines professions indépendantes et certaines associations qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe. Elle est de 16% en RDC. Une réforme fiscale qui vise à améliorer l'accès fiscal et ainsi améliorer la situation sociale des Congolais en cas de distribution équitable des revenus de l'État. Vous avez des questions, des préoccupations sur l'application de la TVA, n'hésitez pas à contacter en composant le 081-899-6315 pour les appels, le 081-973-9650 pour les SMS. Vous pouvez également poster votre question sur la page Facebook Parole aux auditeurs ou nous écrire à l'adresse internet ca@radiocafé.net. Kirill Amézi et William Konda, sous la supervision de Nicole Ndaka, réalise l'émission. Marie-Chantal Lumba est à la présentation.
Parole aux auditeurs.
Et pour parler de la taxe sur la valeur ajoutée, nous avons dans ce studio Monsieur le DG de la DGI, donc le directeur général de la Direction Générale des Impôts. Bonjour Monsieur Dieudonné Lokadi.
Oui, bonjour madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Pendant une heure, nous allons parler de la TVA. Nous savons que la DGI, la Direction Générale des Impôts, est le service public dont la mission est de percevoir les impôts, qui sont des prestations pécuniaires exigées des contribuables sans contrepartie au profit du trésor public. Vous êtes chargé actuellement à pouvoir assurer en fait l'application de la TVA. Votre objectif est d'atteindre 125 milliards de francs congolais pour l'année 2012, donc une moyenne de 50 milliards par mois. Dites-nous, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour atteindre ce chiffre-là?
Oui, merci beaucoup madame. La première des choses, les chiffres qui est attendu est de 650 milliards.
Au lieu de 125 milliards.
Oui, c'est 650 milliards à peu près qui sont attendus au titre de l'année 2012. Et effectivement, la moyenne, ça fait à peu près autour de 50 milliards par mois. Et pour pouvoir le faire, nous avons pris toutes les dispositions. Les entreprises, au cours du mois, collectent la TVA. Et au plus tard, le mois qui suit, donc au plus tard les 15 du mois, donc pour ce qui est du mois de janvier, c'est demain l'échéance, elles viennent souscrire leur déclaration où elles indiquent de la TVA collectée au cours du mois et elles sont autorisées à pouvoir déduire automatiquement sur leur déclaration la TVA qu'elles auront supportée au cours du même mois et elles déclarent aussi la TVA nette. C'est cette TVA nette qui est reversée auprès de la Direction Générale des Impôts.
Donc demain c'est la date butoir pour ces entreprises.
Oui, demain c'est la date butoir pour ce qui est de la déclaration du mois de janvier 2012, donc la première déclaration de la TVA auprès de la Direction Générale des Impôts. Et demain il y a aussi, je vais le rappeler, l'échéance du dépôt de la déclaration de stock au 31 décembre 2011, parce que vous vous rappellerez que cette date avait initialement été fixée au 15 février 2012, mais à la demande des opérateurs économiques à laquelle le gouvernement a cédé, ça a été reporté au 15 février 2012, donc c'est demain. Et la déclaration de la TVA devra être accompagnée d'un état détaillé des déductions, c'est-à-dire quand vous avez déduit l'impôt que vous-même vous avez eu à supporter, vous devez en donner les détails. Il y a un formulaire approprié également pour ça. Donc, demain, nous attendons justement les trois éléments, la déclaration de stock au 31 décembre 2011. Nous attendons aussi la déclaration de la TVA du mois de janvier qui est accompagnée d'un état détaillé des déductions.
Oui. Et actuellement, c'est vrai que demain c'est la date butoir, mais est-ce que vous avez déjà reçu certaines entreprises qui ont déjà déposé leur déclaration?
Bien sûr, la première déclaration, nous l'avons reçue dès le 1er février. Mmh. Et il y a des entreprises qui déposent déjà sur toute l'étendue du territoire national. Mmh. Mais d'habitude, les contribuables viennent les derniers jours. Donc c'est aujourd'hui le 14 et demain le 15 que nous allons sûrement enregistrer le plus gros des déclarations.
Mais nous savons que c'est tous les consommateurs qui payent la TVA. Et en RDC, nous savons que c'est le secteur informel qui a vraiment une grande place. Et quels sont les mécanismes pour que effectivement ces personnes qui fonctionnent dans le secteur informel puissent aussi participer à cette contribuer aussi?
Bon, comme vous l'avez dit, la TVA est supportée par tout le monde. Mm-hmm. Ceux qui réalisent un certain nombre d'opérations, donc ils achètent des biens ou des services ou bien ils importent, mm-hmm. supportent à ce moment-là la TVA. Mais les personnes qui sont autorisés à pouvoir collecter cette TVA, c'est ce que nous avions appelé les assujettis. Mmh. Les plus assujettis, ce sont des personnes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 80 millions de francs congolais. Ceux-là, ce sont les personnes que l'État a responsabilisé de pouvoir collecter la TVA. Donc eux, quand ils réalisent toutes leurs opérations, donc s'il est dans les prestations de service, tout ce qu'il fait comme prestations de service, quand il les facture, il doit y mettre la TVA. S'il est dans la vente des biens, toutes les ventes qu'il effectue, il collecte aussi la TVA.
Donc d'une manière ou d'une autre, ces commerçants ou bien toutes ces personnes qui sont dans l'informel sont liées à ces structures qui sont dans le formel.
Disons que ces assujettis la collectent auprès de tout le monde. Mmh. C'est ainsi que même ceux qui sont dans l'informel, lorsqu'ils traitent avec ces assujettis, en fait, c'est la TVA est perçue à ce moment-là. Mmh. Mais il faut dire que ceux qui sont dans l'informel, les informels eux-mêmes, en fait, eux, ils ne sont pas responsabilisés à pouvoir collecter la TVA. Parce que la TVA, c'est la
TVA. Ils la payent quand même à travers, bien sûr, les gens qui sont dans le secteur qui est formel.
C'est ça.
Nous n'avons pas vraiment les termes techniques parce que nous essayons un peu de mieux expliquer pour que tous les auditeurs puissent comprendre. Nous allons maintenant pouvoir recueillir une première série d'auditeurs qui vont poser des questions par rapport à l'application de la TVA. Et puis nous reviendrons à vous. Peut-être qu'il y a d'autres précisions que vous voulez apporter, mais prenons d'abord cette première série d'auditeurs. Il y a Arsène qui se trouve à Kikwit, Modeste qui est à Kalemi, dont nous allons les écouter. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui veulent participer à cette émission, vous avez quatre possibilités. La première, c'est de nous envoyer un SMS au 081 973 96 50, le 081 973 96 50. Vous pouvez nous appeler au 081 890 63 15, le 081 890 63 15, c'est pour les appels. Vous pouvez poster votre question sur la page Facebook Parole aux auditeurs avec le logo de Radio Capi, ou carrément nous écrire à l'adresse email pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Oui Arsène, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation concernant la TVA?
Merci madame pour m'avoir accordé la parole. Ma préoccupation est celle-ci. Dans toute chose qu'on réalise, il y a toujours des préalables qu'on doit tenir compte. Alors, le peuple congolais est déjà qui maître. C'est quoi qui va le faire? Donc, il y a quand même des difficultés. Mais alors, moi, je pose mon problème dans ce sens. Le moyen que nous allons obtenir, c'est un problème de confiance. Est-ce que le préalable, tel que la bonne gestion, la bonne orientation du résultat de ce TVA va satisfaire les Congolais. Et comment le circuit financier congolais s'est arrangé pour que ce financement soit vu au clair par les Congolais, qu'il y ait une transparence et qu'il y ait aussi la facilité de comprendre ce qu'on fait avec. Voilà, c'était ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, Arsène Le Kikwit. La traçabilité des fonds, la transparence dans la gestion, c'est ça votre préoccupation. Nous vous remercions. Modeste, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Ah, bonjour Marie-Chantal Lumba, bonjour aussi à notre invité.
Votre préoccupation, Modeste?
Moi, je vais aborder ce sujet en trois, en un sens.
Vos préoccupations, hein, Modeste. Si vous avez trois questions, allez-y avec vos trois questions.
Le tout premier temps, je sais que la TVA, je sais que c'est un des moyens de l'État de mobiliser les recettes. C'est une bonne chose, c'est une chose qu'il faut quand même applaudir et qu'il faut quand même féliciter l'État congolais. Le deuxième sens, c'est l'impact qu'aura cette TVA sur le produit LR, sur la population congolaise. Parce que vous savez, avec la pauvreté, comment est-ce que les Congolais en souffrent. Et le troisième sens, moi j'ai des regrets, parce qu'à mon sens, je pense qu'on devrait d'abord sensibiliser la population pour la récolte de cette TVA-là. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Calédonie, en tout cas, c'est un grand problème qu'on tenait. Je peux vous dire, à l'époque, vous pouvez entrer dans un marché, un tas de frais qui coûtait 200 francs congolais, mais aujourd'hui, c'est à 500 francs congolais. Un sucre du riz qui coûtait 200 francs congolais, aujourd'hui, s'élève à 300 francs congolais. Même une moto qui coûtait 1 550 $, aujourd'hui c'est à 1 680 $. Comprenez comment est-ce que les peuples et la population sont en train de souffrir, alors que c'est difficile, vous savez qu'en Congo...
Donc vous posez la question, la première, pourquoi il y a augmentation des prix avec l'application de la TVA? Et la deuxième question, c'est comment le service est en train de faire un effort pour informer, pour sensibiliser les contribuables concernant cette taxe. En d'autres termes, voilà vos deux préoccupations. Et aussi, vous avez soulevé la question, c'est presque la même question, notre auditeur Arsène de Kikwit, concernant la gestion, est-ce que vraiment il y aurait une amélioration du social avec cette mobilisation des recherches. Merci beaucoup, Modeste de Calémie. Nous prenons Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour madame.
Nous vous écoutons, quelles sont vos préoccupations?
Madame, moi je pense que tout ce que nous disons autour de l'ICA, de la TVA, changement de l'ICA à la TVA, c'est vraiment des formules qui n'apportent rien pour le peuple congolais et la République démocratique du Congo. Notre problème, c'est un problème de bonne gouvernance. Notre problème, c'est un problème de l'état des droits. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays, mais ce sont les anti-valeurs qui font que nous ne puissions pas avancer.
Donc, comment lutter?
L'ICA, à plusieurs reprises, quand on tape sur la table, on augmente les recettes. Et quand on tape pas sur la table, tout le monde est là en train de manger, de boire, de danser. Oui. Mais c'est le peuple qui paye les prix.
Merci beaucoup, Félicien. Donc, vous faites allusion à la fraude fiscale, à la corruption, à la traçabilité des fonds. Merci Félicien de Kinshasa. Nous prenons aussi Selemani qui est à Kindu. Bonjour Selemani.
Oui, bonjour. Moi c'est Selemani de Kindu, élève journaliste à l'Institut Kabondo. Je vais demander seulement à l'invité si les pharmacies aussi seront frappées de la TVA.
Les pharmacies. Hein. Merci beaucoup Selemani de Kindu. Et nous allons lire quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a John Poy qui nous écrit ceci. Pourquoi sentons-nous un relâchement dans la sensibilisation sur la TVA? Donc il se pose des questions, l'information ne circule pas suffisamment selon John Poy. Il y a Sharon Junior Lokonda qui se trouve à Kisangani qui nous écrit ceci. Où en est-on avec la demande de la FEC sur le retardement force de l'application de la TVA. Et à patient Birindoa de Béni, pouvez-vous expliquer clairement à la population que la TVA est un impôt et non une taxe pour que celle-ci ne puisse pas attendre une contrepartie? Héritier Moukossa, après combien de temps pourrions-nous avoir l'impact de la TVA sur l'amélioration de vie de la population? Mazé, vous êtes à Kalanga, bonjour. Bonjour Mazé.
Bonjour à tous les invités de Radio Kati ici à notre invité.
Oui, votre préoccupation Mazé.
Merci. Avant de procéder à des différentes questions à notre invité, je voudrais insister. Merci. Avant de poser quelques questions relatives au sujet abordé aujourd'hui, je voudrais tout d'abord procéder en soulignant notamment ce dossier. Je pense qu'en principe, le lancement d'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée par les autorités congolaises du ministère des Finances n'était pas normalement étudié. Cette taxe a été publiée sans que la majorité de la population en principaux opérateurs économiques ne soit au préalable inscrit en ce qui concerne les domaines d'application de cette dernière. À mon niveau, je prierai aux autorités qui ont soutenu favorablement cette loi de prendre les consciences afin de pouvoir instruire et de faire comprendre la population qu'on enlève les côtés actifs de cette
taxe. S'il vous plaît, Mazé. Donc, vous posez une question sur l'information, comment toutes ces personnes seront informées concernant l'application. Allons-y à la question, Mazé.
Celle de savoir. Il y a eu de différentes réunions entre les autorités de la FED et les autorités du ministère des Finances. Qu'est-ce qu'ils ont constaté de différent par rapport à cette application? Je dirais qu'il y a eu un changement par rapport à ce que la population considérait d'une manière maladroite.
Merci beaucoup, Mazé. Donc, vous rejoignez la question de Charon. De Kisangani, où en est-on avec la démarche de la SEC sur le retardement de l'application de la TVA? Est-ce que ces concertations ont pu avoir des conclusions concernant l'application? Merci Mazé de Kananga et nous poursuivons cette émission. Bien sûr, si vous voulez participer, vous avez quatre possibilités. Nous appelez au 081-891-6315, envoyez un SMS au 081-973-9650. Postez votre question sur la page Facebook Parole aux auditeurs qui porte le logo de Radio Kati ou encore nous écrire à l'adresse internet paradiokati.net.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons notre invité, plusieurs questions, préoccupations. Nous allons commencer par le début, question de sensibilisation d'information. Apparemment, l'information n'a pas vraiment circulé en écoutant tous nos auditeurs. Quels sont en fait les mécanismes que vous mettez en place pour informer davantage les consommateurs, les contribuables?
Ok, merci beaucoup d'abord à tous les auditeurs qui ont eu à poser des questions. Et la vulgarisation se poursuit. Je crois que vous suivez à la télé, à la radio. Il y a aussi, surtout, des missions pédagogiques que la Direction générale des impôts a dirigées en direction des opérateurs économiques. Chaque opérateur économique a un gestionnaire et ce gestionnaire a pris contact avec le contribuable pour lui expliquer tous les détails afin des obligations en matière de TVA pour qu'ils puissent bien s'en imprégner. À ce qui concerne le grand public aussi, c'est ce que nous faisons maintenant, nous les sensibilisons parce que on ne peut pas, il serait trop prétentieux de penser que tout Congolais doit comprendre les mécanismes dans les détails de la TVA, ce serait l'idéal. Mais même pour les autres natures d'impôts, on a toujours fait cet effort, mais il faut dire que tout le monde ne peut pas connaître tous les méandres de la législation en matière de TVA. Mais l'essentiel pour nous, c'est que les gens puissent comprendre
que tout le monde a fait.
Oui, c'est ça. La TVA, en fait, c'est un impôt qui amène beaucoup plus de transparence parce que hier, les gens payaient l'ICA sur les différentes opérations. Et sans que cela ne puisse nécessairement exiger qu'ils puissent en avoir une connaissance Parfait, ce qu'un conseiller, quand vous alliez acheter un pain chez Sodexo, vous payez les lycées.
Mais le problème, c'est qu'avec la TVA, on a l'impression qu'il y a une augmentation des prix, c'est pour ça que tout le monde se pose des questions. C'est même la préoccupation de le modèle de Salémie.
Je pense que sur cette question, nous avons communiqué aussi suffisamment. Nous avons dit ceci. On a dit que, d'abord, sur les prestations de services en général, il y avait une baisse. Et cela est vérifiable. Et nous avons dit, à ce qui concerne les biens, les biens pour lesquels l'augmentation de prix devrait être sensible, parce que c'était des produits qui étaient soit totalement exonérés en matière d'ICA, soit qui étaient taxés à un taux faible de 3%, les gouvernements ont été amenés à pouvoir suspendre la perception de la TVA.
Et c'est par exemple un exemple des produits.
Nous avons cité ici le blé, nous avons les ciments importés, le pain.
Ça, c'est quelques exemples.
Oui, les produits, qui servent à la fabrication des aliments pour bébés. Donc, il y a plusieurs produits pour lesquels on a carrément le lait aussi, je crois.
Donc, pour avoir toutes ces services, ils peuvent aller dans les bureaux de la DGI pour avoir plus d'informations, parce que d'une manière générale, c'est assez structuré. Il y a une direction qui fait ça, et dans les provinces, et ainsi que dans les territoires. Donc, ils peuvent aller vers les bureaux de la DGI pour avoir plus d'informations.
Bien sûr. Les services de la DGI sont là pour donner cette information. Ça dit qu'il y a un impact sur le prix, mais ce n'était pas pour les produits qui étaient taxés à 15% qui doivent être taxés à 7%. Nous avons dit depuis le départ que cet impact n'est pas significatif. Si nous disons qu'il n'est pas significatif, nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas un impact. Cet impact n'est pas significatif parce que nous avons eu à faire la ronde dans la plupart des grandes entreprises où nous nous sommes rendus compte que en fait, cet impact allait de 1% à 3%. Et quand vous les calculez sur certains produits, en fait, ça ne devait pas amener aux accroissements que nous avons eu à observer sur le marché. C'est pourquoi nous disons que ces accroissements-là ne résultent pas, à proprement parler, de l'application de la TVA. Et sur ce point, nous voudrions expliquer que, en fait, le prix qui est sur le marché est la résultante de plusieurs paramètres. Il n'y a pas que l'élément TVA. Parce que vous le savez, on dit que l'inflation peut être importée, parce qu'un produit qui est importé de l'étranger, son prix peut changer là-bas. Et cela peut avoir un impact sur le prix à l'intérieur. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'inflation monétaire. C'est-à-dire que le prix peut avoir évolué parce que le taux d'échange a changé.
Et par exemple, pour l'exemple qu'on a donné, il a donné des biens qui sont vraiment produits sur place. Il a parlé des tomates, il a parlé des
chrétiens. Il y a aussi des personnes qui ont pensé que la TVA, c'était un impôt nouveau qui devrait venir amener les augmentations. Alors, par anticipation, ils ont eu à augmenter comme ça leur prix. Mais vous aurez constaté que depuis disons, les deux dernières semaines du mois de janvier, on a eu, suivant l'indice général de prix sur toute l'étendue de la République, on a vu un mouvement un peu à la baisse, à la suite aussi des efforts de sensibilisation et à la suite aussi des missions qui ont été menées pour amener ceux qui appliquaient mal de pouvoir appliquer correctement. Et puis, il y a eu, nous devons le reconnaître, une certaine euphorie, mais qui n'est pas le fait du mécanisme même TVA. Mais et maintenant qu'on rassure beaucoup plus les opérateurs, on demande à ce qu'il y ait une application correcte par rapport à ce que prévoit le texte. Nous sentons qu'il y a une certaine accalmie qui devrait être capitalisée parce que, et nous ne cesserons jamais de le répéter, il s'agit d'un mécanisme qui est favorable pour notre économie.
Et il y a aussi cette question de transparence, de traçabilité. Nous savons que notre pays, il y a un taux assez élevé de corruption, ça fait, on ne peut pas se le cacher, pour éviter aussi la fraude fiscale. Quels sont les mécanismes à votre niveau, par exemple, pour éviter cette fraude fiscale? Comment est-ce que l'opérateur économique peut être amené à déclarer ce qu'il a effectivement?
Je commence à vous parler du premier point. Dans notre pays, il existe un décret qui réglemente le mode de paiement des dettes envers l'État. Il faut que chaque contribuable le sache, que le paiement s'effectue auprès d'une institution financière agréée. On ne paye pas l'argent auprès d'un agent de la Direction générale des impôts ou bien d'une régie. Auprès de la régie, on vient chercher les titres. c'est-à-dire
la preuve,
disons un document qui vous autorise, qui atteste que vous avez déposé votre déclaration et qui vous permet, parce que le montant est indiqué sur ce document, donc c'est ce qu'on appelle un récépissé, ou bien pour les contribuables qui relèvent du CIS, c'est ce qu'on appelle la note de perception. C'est avec cette note et votre déclaration que vous vous présentez auprès d'une banque pour pouvoir payer. Et c'est cette banque qui est responsabilisée par le pouvoir public pour pouvoir recevoir les paiements. Et ce paiement est orienté vers la banque centrale qui est la caissière de l'État. Et ces fonds sont utilisés, en fait, par les mécanismes qui existent, qui est ordonné par, en fait, les ministères de budget, les ministères des finances. Donc, c'est comme ça que les mécanismes fonctionnent. Donc, si il faut lutter contre la fraude, il faut d'abord que tous les opérateurs se mettent à l'esprit qu'on ne peut pas donner de l'argent à un agent. On paye auprès d'une, disons, auprès de la banque. Il n'y a pas d'argent à donner à un agent. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit retenir. Maintenant, par rapport au fonctionnement interne à l'administration. L'administration, c'est une machine dont le rôle, disons la DGI, je veux dire, dont le rôle est de jouer les pendants du système déclaratif. C'est-à-dire que le système est déclaratif. Chacun déclare.
C'est de la bonne foi de l'opérateur économique.
Bien sûr.
Mais comment traiter l'opérateur économique à être correct avec lui-même?
À travers le monde, et nous aussi on a adopté ce système, il est déclaratif. C'est-à-dire l'opérateur économique justifie sa déclaration librement. Mais l'administration est organisée pour vérifier la véracité de cette déclaration. Parce que si, revenons par exemple en matière de TVA, vous dites que vous avez traité avec moi et dans cette opération-là, vous avez collecté 10, on a la possibilité de pouvoir retrouver la facture. Parce que nous avons d'abord les agents qui sont spécialisés pour pouvoir faire le contrôle, ils sont formés pour cela et ils ont toutes les techniques. Ils ont l'administration fiscale a ce qu'on appelle le droit de communication. Le droit de communication, c'est le pouvoir qui nous est donné d'obtenir de toutes sources. Même le secret bancaire n'est pas opposable à l'administration fiscale. C'est-à-dire que nous pouvons obtenir des informations auprès de n'importe qui et qui nous permettent de nous assurer que la déclaration que vous avez sortie chez nous est conforme à la vérité. Si elle n'est pas conforme à la vérité, naturellement, on est
pénalisé.
Oui, d'abord, on redresse, l'État récupère ce qu'il doit récupérer, et ensuite de cela, il y a des pénalités qui sont mises à votre charge. Et là, c'est vous qui perdez. Parce que le mécanisme TVA tel que nous l'avons expliqué, c'est un mécanisme qui est neutre normalement par rapport au fonctionnement des entreprises, parce que les entreprises collectent, mais avant de venir investir auprès de l'administration, elles déduisent ce qu'elles-mêmes ont
déjà payé
ou à l'occasion de l'acquisition de matières premières ou bien intérieures ou à l'occasion de l'importation. Donc ce mécanisme est normalement neutre. Et ça, si un opérateur respecte correctement les dispositions de la loi, évidemment le mécanisme va lui être
ça fait au niveau de l'opérateur économique avec sa banque, mais maintenant les fonds sont déjà au niveau de la banque. Comment est-ce que, ça c'est aussi la préoccupation de notre ami Arsène de Kikwit, maintenant les fonds sont en banque. Comment poursuivre cette traçabilité?
Bon, en fait, l'opérateur économique, lorsqu'il a payé auprès de la banque, la banque lui délivre une attestation d'encaissement. Ça veut dire qu'elle donne la preuve qu'elle a eu à recevoir. Donc c'est la banque commerciale. Elle lui donne un document. Et sur base de ce document, l'opérateur économique vient déposer la copie de ce document auprès de notre administration. Mais la banque centrale, la banque commerciale qui a eu à recevoir le paiement, va niveler, donc transférer ses fonds dans les comptes du
trésor.
Et la banque centrale émet en fait des avis de crédit où on retrouve le paiement de chaque opérateur.
Donc c'est publié, est-ce que c'est rendu aussi public?
Oui, vous pouvez obtenir tous ces détails si vous voulez. Et c'est sur base en fait des avis de crédit émis par la banque centrale qu'à notre niveau on atteste, c'est-à-dire on appuie la situation de chaque opérateur pour dire quand il a déposé sa déclaration, c'était 1000 et l'avis de crédit qui vient d'arriver de la banque centrale atteste effectivement qu'il a payé les 1000. Donc nous avons tout un service qui s'occupe de ce suivi-là pour qu'il y ait la traçabilité.
Mais de l'autre côté, après la banque, les fonds sont dans le trésor public, à ce moment-là, que peut faire par exemple quelqu'un pour se rendre compte si effectivement ça a été bien géré?
Bon, là, il faut qu'on dise ceci. Nous sommes au niveau de la mobilisation des ressources, mais l'État est organisé. Il y a aussi des structures qui s'occupent d'exécuter les dépenses. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai parlé du ministère du budget et du ministère
et à ce moment-là, ça retourne à le budget de l'État.
C'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour exécuter la dépense, donc utiliser les fonds qui sont mis à la disposition du gouvernement, là, il y a le budget.
Le budget.
On élabore un budget.
Par le Parlement.
C'est élaboré au niveau du gouvernement. Le gouvernement transmet au niveau du Parlement qui finalise et vote. C'est-à-dire en indiquant, en accordant des crédits pour chaque dépense. On va dire, bon, on va réaliser tel pont au niveau de tel village. Donc ça, c'est le travail des députés. Chaque député, par rapport au milieu où il a été élu, il descend.
Donc en fait, pour suivre cela, ce n'est que lors d'une question orale ou bien d'une motion, au niveau du Parlement.
Le Parlement vote le budget et le Parlement...
Contrôle l'exécution du budget. Donc, il faudrait que ça aille maintenant de l'autre côté.
Oui, donc
ce sont les parlementaires, représentants.
Les parlementaires qui sont les représentants qui s'occupent en fait du contrôle pour veiller à ce que cet argent soit utilisé conformément à ce qu'ils ont prévu dans le budget.
La question de Sélimani, il se pose une question, est-ce que les produits pharmaceutiques vont aussi payer la TVA sur les produits pharmaceutiques?
Non, madame. Dans les exonérations, il est clairement dit que les produits, l'importation et l'acquisition des produits pharmaceutiques, intrants pharmaceutiques et des matériels médicaux sont exonérés.
Donc, les primes doivent augmenter dans les pharmacies.
Bon, parce que je vous ai bien dit que le prix, c'est la résultante de plusieurs paramètres. Mm-hmm. Mais ici, par rapport à la TVA, nous disons bien que l'importation, l'acquisition de produits pharmaceutiques, intra-pharmaceutiques et matériels médicaux sont effectivement exonérés. Et à cet effet, les ministres des Finances et les ministres de la Santé ont eu à publier même la liste de ce qu'il faut considérer comme intrants pharmaceutiques pour permettre à ce que l'exonération soit effectivement accordée.
Et aussi cette question, qu'en est-il en fait de la démarche de la SEC concernant le retardement de la TVA et plusieurs concertations par rapport à cela?
Non, je crois que...
à nos auditeurs.
Non, je crois que sur cette question, peut-être que les auditeurs n'ont pas suivi. Mm-hmm. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avait déjà donné une réponse il y a plus de 2-3 semaines. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le mécanisme, disons, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le mécanisme se poursuit normalement. Donc, les concertations se poursuivent avec la FEC, parce que nous pensons que beaucoup de problèmes qui étaient posés, c'est des problèmes de compréhension. Parce qu'il faut reconnaître que le mécanisme TVA, c'est un mécanisme relativement complexe. Et il faut un petit temps pour que tout le monde puisse s'imprégner de son fonctionnement.
Donc, il n'y aura pas de pénalités pour ceux qui seront en retard de paiement. Quand les concertations sont en cours.
Bon, les concertations sont en cours. S'il y a des problèmes qui nous sont posés, nous pourrons les examiner.
Et
nous les examinons ensemble. Mm-hmm. Mais il ne faut pas que les certains opérateurs puissent en profiter pour dire, bon, nous, on peut faire n'importe quoi. Non, nous devons respecter la loi, même si, au regard de la nécessité de poursuivre la sensibilisation et la pédagogie, on peut être amené à comprendre tel ou tel aspect. Mais nous sommes tenus de pouvoir appliquer les dispositions de la loi. Et tout le monde doit faire un effort pour pouvoir l'appliquer correctement.
Oui, en écoutant vos explications pour répondre à la préoccupation d'Eriki Moukossa qui se pose la question, quand est-ce que, avec ce recouvrement, cette mobilisation des recettes grâce à la TVA, quand est-ce qu'on pourra améliorer, on pourra sentir en fait l'impact de la TVA? C'est vrai que vous, votre institution, votre service public n'est là que pour récolter et mobiliser les fonds, mais à votre avis, en tant qu'économiste, en tant que quelqu'un qui a travaillé longuement au sein de la DGI, à votre avis, quand est-ce qu'on pourra ressentir l'impact de la TVA sur le vécu quotidien?
Bon, l'impact de la TVA sur le vécu quotidien, je crois que ça va venir. Mais dans un premier temps, cet impact viendra de l'accroissement des recettes. Mmh. Et je crois que si vous avez suivi le directeur général adjoint de la DGDA, qui est venu au studio de votre tribune, il a eu à indiquer qu'au niveau de la DGDA, en fait, pour le mois de janvier, on a enregistré un accroissement de recettes dues à la TVA. Et maintenant, au niveau de l'intérieur, j'ai dit que notre première échéance est demain. Donc, je ne sais pas encore vous donner le chiffre, mais je peux déjà vous dire que, à ce qui concerne la TVA remboursable, c'est-à-dire le compte qui est destiné à recevoir le paiement des exportateurs et qui devra servir au remboursement de, disons, de la TVA au profit des personnes qui sont, des assujettis qui sont éligibles, nous avons à ce jour près de 4 milliards 600 millions. De francs, déjà.
Donc, pour ceux qui, par exemple, qui ne vont pas consommer certaines choses qu'ils vont acheter ici, par exemple, les gens qui doivent quitter le pays et qui...
Non, il s'agit plutôt de... Les personnes qui sont éligibles, suivant la législation maintenant, ce sont les exportateurs, ce sont les personnes qui perdent leur qualité d'assujetti, ou les personnes qui sont en cessation d'activité, ou bien alors... C'est les gros investisseurs, les gros investissements. Pour, ce sont seulement ces 4 catégories qui peuvent solliciter le remboursement. Et pour assurer ce remboursement, parce que c'est important pour crédibiliser le mécanisme TVA, nous avons déjà une enveloppe qui est disponible. C'est pour dire tout simplement que la machine TVA
est en marche. Nous allons écouter Obed Kisoura Louboudi, André à Kinshasa, Désiré de Calémir, et aussi lire les messages qui nous parviennent, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, les coquettes de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bonjour Obed. Obed, il se trouve à Louboudi, on a un problème avec sa liaison téléphonique. André, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Allô, allô.
Oui, c'est André.
C'est Obed, là.
Bon, s'il vous plaît André, veuillez patienter un tout petit peu, nous reprenons Obed de Louboudi et puis nous viendrons à vous. Obed, bonjour.
Comment?
Et nous vous écoutons, quelles sont vos préoccupations Obed?
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais intervenir sur cette problématique de la TVA. Ma première préoccupation s'attache sur le fait que nous voyons sur le terrain beaucoup de percepteurs, de gens percepteurs de l'État s'attenter à arrêter ou à sanctionner les opérateurs économiques sur la mauvaise application de la TVA. Que peut nous dire l'invité qui est sur place? Est-ce que c'est seulement l'affaire de la DGI ou de la contribution, ou soit les agents de l'affaire économique, les agents de l'IPMEA, l'administrateur des territoires, tous sont concernés? Parce que pour ma part, la plupart ne sont pas suffisamment informés ou formés pour percevoir la TVA.
Oui, Obed. Donc, vous voulez savoir qui sont les personnes qui sont habilitées à demander à ces opérateurs de pouvoir respecter l'application de la TVA. Voilà
votre question. Ah oui, à pouvoir respecter ou à percevoir cette taxe-là.
Percevoir les taxes.
C'est une préoccupation.
C'est votre.
Je pense que l'État n'a pas du tout tort d'avoir institué, parce que partout au monde, c'est l'État qui a toujours été le plus riche. Mais c'est le contraire. Ici, chez nous, au Congo, l'État passe le plus grand pauvre de tout le monde.
Donc, vous saluez l'application de la TVA.
Le problème qui se pose lors de la perception, quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour récupérer les contribuables auront versé? Il y a un État, par exemple, que je prélève ici à Louboudi, à la SNCC, a commencé l'application de la TVA depuis les contrats.
Obed, s'il vous plaît, Obed, la liaison téléphonique est en train de se détériorer.
Il n'avait même pas les codes sur lesquels il pouvait prélever la TVA et il ne savait pas comment l'État pourra récupérer cela.
Oui.
Alors, moi je pense que la FEC a eu raison de demander le retardement de la TVA afin d'inclure tout le monde, parce que l'État doit se escroquer ou se faire voler.
Oui, merci beaucoup. S'il vous plaît, Obed. S'il vous plaît, Obed.
Comment l'État pourra récupérer cela?
S'il vous plaît, Obed, là on n'est pas vraiment en train de se suivre. J'espère que vous allez suivre la rediffusion de cette émission, ce sera à 20h03, parce que déjà une partie de votre préoccupation a été relevée. On a pu répondre, notre invité a pu répondre à une partie de votre préoccupation. Vous allez suivre cette rediffusion. Et nous poursuivons cette émission. Nous avons ce message de Billy Amissi de Kisangani qui nous écrit ceci. Pourquoi ne vulgarise-t-on pas suffisamment la TVA auprès de la population? Le même souci exprimé par Karim Capitaine, on a aussi, par rapport à cette question, notre invité a déjà répondu. Comment expliquer la TVA que nous imposent les maisons de transfert des fonds? Donc, je voudrais savoir si les maisons de transfert des fonds peuvent également imposer la TVA. Est-il possible que la TVA puisse être détournée? Si oui, que prévoit la loi? Est-ce qu'il y a des pénalités, des sanctions à l'endroit de cette fraude fiscale? Élisée Moueto de Boutembo, où en sommes-nous avec la lutte contre l'augmentation des prix du à l'application de la TVA. Élisée Moueto, encore une fois, qui dit quels sont les mécanismes de suivi de la gestion de la collecte de ces fonds de la TVA. Et cette question-là aussi a été répondue au cours de cette émission. André, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, madame. Oui. Je salue également le directeur général de la DGI. Mm-hmm. Contrairement à l'auditeur qui vient de passer, avec une affirmation légère, l'État chez nous est pauvre. Moi, je dis que les individus qui représentent l'État chez nous sont très riches. Il suffit d'avoir les trains de vie eux-mêmes. Mm-hmm. Ma question est la suivante. D'abord, j'ai fait une observation. L'application de la TVA est préjudiciable pour les consommateurs. Les directeurs général essayent d'expliquer effectivement quant aux collectes. Mais il ne parle pas plus des gens qui doivent payer cette TVA. Il est d'accord avec nous que ce sont des consommateurs. Le niveau de vie dans notre pays aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. Les gens sont vraiment, vraiment très pauvres. Donc nous pensons que l'application actuelle de la TVA, c'est plus pour préjudicier le consommateur que nous sommes.
Oui.
Alors, ma question.
Mm-hmm.
Oui, madame.
Allez, moi, je voulais juste vous poser une question pour savoir votre avis. Est-ce qu'il faudrait que les riches puissent payer plus que les pauvres? Donc, qu'il y ait, disons, des taxes qui soient un peu différenciables selon le revenu de chacun. Est-ce que vous pensez que cela est possible?
En fait, cela est possible. Déjà, là, vous répondez déjà à une observation que j'allais faire à M. le Général. Les riches qui gagnent trop, les membres du gouvernement, les parlementaires, les ADG, votre invité par exemple, qui ne paye pas les impôts, je suis d'accord avec moi, ils gagnent des salaires énormes. Mais c'est plutôt la population, donc les consommateurs que nous sommes, c'est nous encore qui allons payer le plus cher.
Donc les riches payent plus les impôts que les pauvres. Voilà un peu ce que vous voulez.
Tout à fait. Alors ma question est de savoir, est-ce que M. le DG ne pense pas que l'application de la TVA maintenant est en quelque sorte une charrue qu'on a placée devant le bœuf? En quel sens? C'est que le gouvernement devrait d'abord augmenter les salaires des fonctionnaires. On devrait augmenter d'abord les salaires et ensuite appliquer la TVA. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ça parce que le gouvernement a déjà eu à récolter plusieurs impôts dans différents domaines. Et nous, que sais-je encore? On a eu déjà à retirer tous ces impôts. L'utilisation, on n'en a pas fait. Monsieur le DGA, ou plutôt le DGA général, est encore d'accord avec nous pour observer que la mesure de l'application de la TVA à Kinshasa a déjà posé des très sérieux problèmes. Il suffit qu'à bien regarder ces élections, les gens ont réclamé plus de social.
Donc, à votre avis, il faudrait que l'État commence d'abord par payer des meilleurs salaires, qu'on améliore le revenu de tout un Congolais avant d'appliquer la TVA, et vous estimez que l'État a suffisamment récolté, a suffisamment mobilisé des fonds et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la TVA pour améliorer le vécu quotidien. Merci André, c'est votre point de vue, mais aussi votre préoccupation. Désiré de Calémy, bonjour. Bonjour Désiré. Nous avons perdu Désiré, Bosco de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour madame.
Et votre préoccupation, Bosco?
Merci pour la parole. Je vais commencer par féliciter l'exposé de votre invité. Mais je voudrais lui rappeler qu'il ne doit pas oublier que la non-sensibilisation de la population sur la TVA continue à provoquer un impact négatif qui est continuel jusque-là dans la population. La preuve est qu'il y a ceux-là qui sont en train de se demander si la TVA était une nouvelle chaîne de vision, tout ça, tout ça. Alors, je voudrais poser une question par rapport au sujet. La question est de savoir si la garantie, l'impôt sur la garantie locative peut subir aussi la TVA, parce qu'il y a des bailleurs qui font déjà payer. Ils font payer la TVA sur la garantie locative.
Merci beaucoup de Lubumbashi. Votre préoccupation, si on doit aussi assurer la TVA pour les locataires lorsqu'ils payent aux propriétaires. Il y a aussi Émilie qui nous a écrit ceci. Comment la DG pense-t-elle mobiliser beaucoup de recettes alors que la TVA a un taux inférieur à 18% parce que l'ICA à l'époque c'était 18% et elle estime qu'à 18% déjà l'État se plaignait de ne pas avoir suffisamment des moyens et à 16%, comment est-ce qu'elle pourra mobiliser autant d'argent? Rosny Mouterika de Bukavu, comment s'assurer de la traçabilité de la TVA surtout au poste frontalier où nous avons souvent des multiples services de l'État. Alphonse Ariwara, que prévoit la loi concrètement pour ceux qui pourront détourner les fonds de la TVA? China de Bukavu, les exploitants artisanaux des minerais et les étudiants peuvent-ils payer la TVA et comment savoir si un opérateur économique est assujetti? Faustin de Kinshasa, comment la TVA, comment avec la TVA allons-nous mobiliser beaucoup de recettes alors qu'il n'y a pas beaucoup d'assujettis dans nos villes? Voilà les préoccupations de nos auditeurs. Et le dernier, ce sera Barry qui se trouve à Kinshasa. Pourquoi les opérateurs économiques doivent-ils déclarer chaque mois au lieu de faire une fois par an? Voilà la préoccupation, les préoccupations de nos auditeurs. Nous prenons Guillaume qui sera le dernier, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bonjour Guillaume, vous êtes le dernier, vous êtes ici avec Kinshasa, nous vous écoutons, votre préoccupation.
Oui, bonjour madame, merci pour cette occasion que vous venez de m'offrir.
Mm-hmm.
Oui, ma préoccupation est simple, c'est-à-dire que nous avons suivi la PEC. On a suivi la position du gouvernement à travers le premier ministre. Nous suivons les amis de l'impôt. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? Nous regrettons que ce n'est pas préparé. La population n'était pas préparée. Vous connaissez vous-même que les services de l'économie chez nous, dans notre pays, n'est pas organisé. C'est partout où ils passent, ils ne contrôlent pas les prix. Et quand ils viennent contrôler les prix, c'est pour rançonner les petits détaillants. Vous verrez, dans d'autres pays organisés, ils ont déjà des machines, ils ont des ordinateurs qui automatisent la TVA. Malheureusement, ici chez nous, chacun vient, vous verrez sur des factures 7% TVA, 1 dollar TVA à la BH Western.
Votre préoccupation, c'est concernant l'information, la circulation de l'information sur la TVA, comment éviter bien sûr cette fraude fiscale, comment les opérateurs économiques puissent être honnêtes avec eux-mêmes, donc ce sont des préoccupations. Nous prenons Étienne de Congolo, merci Guillaume. Étienne, bonjour.
Oui, c'est John.
C'est John, vous êtes à Congolo. Nous vous écoutons votre préoccupation en une minute.
Oui, c'est John Mouchacha.
Oui, allez-y, nous vous écoutons, John.
Oui, ici, ma préoccupation est la suivante.
Mm-hmm.
Je voudrais savoir qui paye la TVA. Parce que ici, notre... Là, nous a dit que c'est à partir de 80 millions que tu seras un assujetti.
Là, vous êtes trompé, John.
Et en plus, quels sont les produits qui sont concernés par la TVA?
Mm-hmm. Merci
beaucoup. Voilà ma préoccupation.
Là, je peux moi-même vous répondre hein, concernant les personnes qui paient la TVA. C'est tous les consommateurs et les opérateurs économiques qui peuvent récolter la TVA. C'est ceux qui ont un capital de plus de 80 millions de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut collecter la TVA, mais tout le monde paie la TVA. Dès que vous achetez un produit, et ce produit, s'il y a la TVA dessus, vous payez votre TVA en achetant le produit. Voilà, en gros. Donc, nous arrivons vers la fin de cette émission. Nous allons à nouveau accorder la parole à notre invité pour répondre aux dernières préoccupations, mais aussi conclure cette émission.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le directeur Cadi, nous n'allons pas revenir sur l'information parce que vous avez donné toute l'information à ce sujet. Revenons sur cette préoccupation. Est-ce que lorsqu'on paye le loyer, on doit payer la TVA? Est-ce que le transfert de fonds, les exploitants artisanaux, comment ça se passe pour ces trois catégories?
Bon, merci beaucoup. Pour ce qui est du loyer, je voudrais déjà dire non. Il n'y a pas de TVA sur le loyer ici au niveau de la cité. Les maisons qui sont mises à location par les personnes qui sont à la cité, il n'y a pas. Il n'y a pas de TVA. C'est comme aussi sur le Minerva, parce que nous avons appris aussi qu'il y a certaines personnes qui pensaient qu'il y aurait une TVA sur le Minerva. Mais à ce qui concerne les transferts de fonds, le transfert de fonds, en fait, est une prestation de service. On vous aide à pouvoir transférer les fonds. Et sur la commission que perçoit la maison de transfert, naturellement, il y avait l'ICA auparavant à 18%. Maintenant, il y a la TVA à 16%. C'est-à-dire que la TVA est là, mais ça ne vient pas augmenter en fait le prix de transfert. Parce qu'en fait, les choses sont claires.
Ça devrait diminuer
plutôt le.
Mais, par rapport à cela, il se pose des questions. À l'époque où c'était 18% l'ICA, on n'a pas pu mobiliser autant de recherches. Comment atteindre vos objectifs avec
16%? Très, très, très bonne question. Justement, c'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire que la TVA, ce n'est pas justement un mécanisme qui vient pour augmenter. Parce qu'en fait, les gens pensent que ça vient augmenter par le fait que les entreprises vont commencer à payer plus. Non. Ça vient plutôt élargir l'assiette.
Il y a plus de
deux axes. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont responsabilisées pour pouvoir collecter et il y a un mécanisme pour que ces différents collecteurs puissent se contrôler mutuellement. Parce que lorsque je vous remets une facture, il y a des montants du prix du bien, mais il y a aussi la taxe. Et moi, je dois déduire. Pour que je déduise, il faut que j'aie une facture élaborée et établie à bon et du fond par vous. Et cela permet un contrôle mutuel.
Ça
permet à ce que les opérateurs ne puissent plus cacher une partie de leurs activités. C'est ça, en fait. C'est par ce mécanisme. C'est en permettant qu'il y ait une certaine transparence et l'élargissement de l'assiette banque dans les deux sens. Par rapport au nombre de contribuables, mais aussi par rapport au volume réel des activités qui sont réalisées par des opérateurs économiques.
Et cette question d'André de Kinshasa, est-ce qu'il y a un mécanisme pour que les plus riches payent plus
Parce que
la TVA pèse sur les pauvres.
Celui qui est riche, il fait plus de dépenses. Et naturellement, parce que c'est une proportion des dépenses qu'on effectue, des consommations qu'on effectue, c'est normal que le plus riche puisse payer plus. Et
il faut qu'il consomme plus, il paye.
Oui, je pense que
c'est aussi... le riche, hein, mais le pauvre, il pourra payer pas.
Non, en fait, il y a aussi une idée de force qui passe. Il y a certaines personnes qui pensent que quand il y avait l'ICA, dans les biens et les services qu'ils étaient en train de consommer, il n'y avait pas d'impôt. Non, il y avait l'impôt. Il y avait l'ICA qui était dans toutes les factures. Mais seulement, il n'y avait pas de transparence, donc cela n'apparaissait pas pour que cela puisse attirer une attention, particulièrement pour que les gens puissent suivre.
Et pourquoi une déclaration annuelle et non plutôt mensuelle et non annuelle?
Parce qu'en fait, il s'agit, vous collectez pour le compte de l'État. L'État ne va pas vous laisser cet argent-là pendant une année. En fait, ce n'est pas un financement que l'État va vous donner, non. C'est-à-dire, on collecte au cours d'un mois, au plus tard, on vous donne 15 jours pour vous organiser, réunir toutes les factures, et au plus tard, les 15 qui suivent, vous venez déclarer. Et je voudrais donner la question suivante. Un des intervenants a dit que nous ne payons pas l'impôt. C'est faux. Moi, chaque mois, vous pouvez aller vérifier, je paye mes impôts. Et là, c'est la DG qui collecte sur les rémunérations. C'est le cas pour le président de la République, c'est le cas pour le premier ministre et tous les membres du gouvernement et les membres de leur cabinet.
Et les députés, bon. Pas encore.
Bon, pour ce qui est des députés, je crois que le débat, les contacts
sont en cours,
mais nous devons amener aussi, justement, quand nous avons fait la campagne de civisme sur ça, c'était pour amener tout le monde à pouvoir payer son impôt. Parce que c'est cela que nous devons faire. Parce qu'on ne peut pas être fier d'être Congolais lorsqu'on ne participe pas. Donc si nous, agents des impôts, aujourd'hui, nous passons pour dire qu'il faut que tout le monde paye, et nous insistons, c'est parce que nous-mêmes, nous avons donné l'exemple. Et
oui, c'est bon, pour une conclusion, parce que la
pour une conclusion, je dirais ceci. Je rappelle encore, pour ce qui est de l'échéance de demain, au plus tard le 15 février 2012, nous attendons la déclaration des stocks au 31 décembre 2011. Nous attendons également la déclaration même de la TVA du mois de janvier, c'est-à-dire la TVA qui a été collectée, moins la TVA déductible, la TVA nette, et le paiement doit intervenir au plus tard demain. Et nous disons aussi que cette déclaration-là de la TVA est accompagnée d'un relevé, en fait, détaillé des déductions. Donc, il faut que les opérateurs économiques puissent prendre toutes les dispositions, tous les assujettis, même lorsque vous n'avez pas réalisé d'opération imposable, vous êtes tenu de pouvoir souscrire votre déclaration au plus tard demain.
Il y a des pénalités. Il y a toute une série de pénalités dans cette ordonnance loi sur la TVA. Et nous vous disons merci, monsieur Dieudonné Lokadi. Et je rappelle que vous êtes directeur général de la DGI. Je dis également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La RDC a comptabilisé 2 crashs d'avion en l'espace d'un mois. Le dernier en date remonte au dimanche 12 février. Le bilan fait état de 5 morts. Ce crash est l'un des énièmes d'une série qui n'est pas encore finie. Comment réagissez-vous et que proposez-vous pour prévenir les accidents d'avion? À demain.